Phèdre en Inde, de Jean-Christophe Bailly, lu par l'auteur. Une adaptation de Jean Torrent. En janvier 1990, Phèdre fut créé à Bhopal, en Inde, par la troupe du Rangmandal Bharat Bhavan, dans une mise en scène de Georges Lavaudan, qui apparaîtra ici sous le nom de Jo, que l'amitié lui donne. Associé dès le départ à cette expérience singulière de translation, Jean-Christophe Bailly la relate sous la forme d'un journal de bord qui est à la fois un carnet de voyage et un journal de travail. La découverte de l'Inde s'y tresse à la fabrication du spectacle, tout se passant comme si les deux enjeux se rejoignaient. Trois séjours successifs en Inde, d'août 1989 à janvier 1990, forment la matière de ce journal. Quatrième épisode. Quelle Grèce ici en Inde?
Novembre 1989, Paris.
Ces trompettes saluent l'entrée de Václav Havel dans la salle Vladislav du château de Prague où il y a 500 ans étaient couronnés les rois. C'est le nouveau président que l'on salue ainsi. Quelques minutes plus tôt, les 323 députés présents l'avaient élu à l'unanimité et à main levée, pas un bras n'a manqué. Aussitôt, Alexandre Dubček l'a proclamé président.
Les événements des pays de l'Est, Hongrie et Pologne, puis aujourd'hui RDA et Tchécoslovaquie, en eux-mêmes inespérés et émouvants, ont ici, en France, pour celui qui revient d'un tout autre endroit du monde, un effet singulier. Alors même que l'histoire accélère tout près d'ici le rythme de ses chapitres, on éprouve l'impression de rentrer dans une province endormie, opulente et oublieuse, où les notables soupèsent un soutien qui ne demanderait qu'à être absolu, c'est-à-dire lyrique et critique à la fois. Derrière le tumulte et la joie de ces événements capitaux dont je lis avidement les nouvelles qui, en Inde, m'étaient contées, je m'efforce aussi de suivre d'aussi près que possible les élections indiennes. Mais ce qui là-bas occupait la quasi-totalité des colonnes est réduit ici à la portion congrue. Il faudra attendre les résultats définitifs pour qu'on en parle vraiment. Il fait un temps froid et vif. J'éprouve pleinement la façon dont le froid transfigure l'air. Le froid est une chance. Faire de la fumée avec sa bouche, sentir en marchant la chaleur que l'on transporte, que l'on est, ressentir les conditions de vie entièrement différentes et cette netteté que le froid donne aux odeurs et aux bruits, entrer dans un café et y boire quelque chose de chaud. Tout cela n'est rien sans doute et s'accorde à des habitudes vite revenues, quoique novembre soit à Paris souvent sombre et pluvieux. Mais je m'efforce d'en recueillir le plaisir comme un animal revenu au terrier ou, comme s'il m'était donné de retrouver un espace fait de relief et de découpe, mais fixe et ensoleillé, froid et minéral. 5 décembre. Il y a de cela deux ou trois nuits, j'ai rêvé à Phèdre. C'était une boîte transparente et cristalline, semblable à une cassette, que nous ramenions en France. La rapidité de ces trois semaines et l'enchaînement des travaux et des rencontres ont été telles que je m'étonne, quand je pense à Bhopal, à la familiarité qui me lie à ce chemin qui descend de l'hôtel au théâtre, avec ses buffles, ses cabanes, ses arbres, avec le petit temple à l'entrée de la route qui part longer le lac. L'étrange n'est pas que le lointain devienne irréel, mais qu'il demeure réel tout en étant absent, et réel au point que l'illusion vient plutôt frapper tout près, dans les rues de Paris que l'on décore déjà pour Noël, avec des branches de sapin, des lumières, des guirlandes et des boules dorées. Et Phèdre est comme un feu endormi qu'il faudra réveiller en moi, mais là-bas, sur place. Je sais que cela se fera tout seul, de telle sorte que l'absence de toute impatience se mue lentement en une sorte de ferveur qui est comme le reliquat d'un secret partagé.
Passengers are requested to continue to wait.
10 décembre, Delhi. L'horaire inscrit sur nos billets pour Bhopal était faux, de telle sorte que nous avons raté l'avion et qu'il nous faut rester un jour de plus à Delhi. Nous en profitons pour aller voir Qutb Minar, le plus haut minaret du monde, qui est au sud de la ville. Symbole du triomphe de l'islam, le minaret, au centre d'un parc, a perdu sa fonction religieuse. Les gens viennent là en promenade, et comme c'était dimanche, ils étaient nombreux. Le minaret, qui est du XIIIe siècle, est vraiment très beau. Il serait massif malgré sa hauteur si le système complexe et alterné de cannelures qui le rythme et les avancées des balcons circulaires qui en marquent les parties ne venaient l'alléger et le fuseler avec beaucoup d'élégance. Entièrement rose, sauf tout en haut où un marbre vert vient succéder au grès, il a, malgré son origine guerrière et conquérante, l'allure paisible d'une gigantesque et sublime borne. Par chance, on ne peut pas monter dans ce minaret, et c'est comme si, tout en lui rendant l'hommage qu'il mérite, on le laissait tranquille. Toujours le naturel des saris dans les ruines. 11 décembre, Bhopal. L'avion, qui ne s'arrête plus à Agra et à Gwalior, arrive très tôt, peu après 6h30 du matin. Bizarrement, il s'arrête loin de l'aérogare, que l'on gagne par ce qui est presque un chemin de campagne. Traversée de la ville qui ne semble à cette heure que peuplée d'écoliers. Retrouvailles de la troupe en fin de matinée, beaucoup plus d'effusion que je n'en attendais. L'après-midi, filage destiné à présenter le matériau, encore brut, préparé lors de mon précédent séjour. Il a bien évolué, avec une Arissi transformée, mais révèle plus clairement ses qualités et ses défauts, en particulier la faiblesse de la première partie. Tout devient par ailleurs pour nous terriblement matériel. Décision à prendre vite pour les costumes, l'espace, les lumières. Il faut, à l'évidence, soutenir le jeu parfois encore pâle, par une incarnation inquiète, tremblée, le souvenir d'un bonheur qui s'éteint, l'antichambre où la collision des désirs formule l'élan brisé puis la plainte. Avec de la terre ou du bois, des pierres, quel sol, quelle graisse, ici, en Inde. « 12 décembre. Début de l'acte 1, sinon mot à mot, du moins phrase par phrase. Assis d'abord, puis sur le plateau. Les blocs se définissent, s'animent. C'est comme si l'on découvrait qu'un câble est fait de 1001 fils. Chacun d'entre eux d'une intensité et d'une couleur différentes. Jo taille dans les mouvements, suscite la violence physique lorsqu'elle restait comprimée dans la voix. Toujours une musique au loin, venant du bas de la colline, mais ce soir profane et rythmée. Une baraque en tôle avec un néon blanc au-dessus de la porte, la nuit haute où se perd la structure de la tour en acier rouge et blanc, les reliefs alanguis et les lumières dans la pulsation du tabla, un point, ce point du sous-continent, dans le Deka, la péninsule, rien qu'ici. « 13 décembre, au vieux marché. Vaches couchées devant les orfèvres assis. Près de Jama Masjid, on tâte la jambe d'une petite fille qui a été heurtée par un scooter. Elle pleure, au milieu d'un petit attroupement. Deux gros sikhs klaxonnent dans leur marouti, avec cet inimitable air de brute qu'ils ont parfois, tels ceux qui rosent Tintin dans le lotus bleu. Chaleur douce du soleil d'hiver, la rue des Verriers est pleine de paille, passe une chèvre aux cornes peintes en bleu. Tout semble détendu, revenu à une demi-léthargie. Le seul défaut du bazar de Bhopal, c'est qu'il n'est pas assez grand pour qu'on puisse s'y perdre. Suite de l'exploration détaillée de l'acte 1. L'absence d'assises concrètes nous manque, comme elle manque aux acteurs. C'est l'absence de support de jeu, de points de repère spatiaux, qui fait défaut. Les corps semblent empêtrés dans l'espace vide. Il ne s'agit pas de faire que Phèdre se mouche ou s'évente, ou qu'Arissi file de la laine, mais il faut donner consistance à l'existence mate des choses, telle qu'elle apparaît dans le deuil. 14 décembre. Déroulement de l'acte 2. Perplexité, tout flotte, reste faible, sans foyer. Les oiseaux du projecteur se couchent toujours à 5h15. Ils dorment, quel que soit le bruit que nous faisons dans la salle. 15 décembre. Une solution radicale se présente le matin. Jouer toute la pièce comme un souvenir, c'est-à-dire en éclats, traversé par une énergie furieuse qui a laissé des ruines. Des pans de murs, là où il ne peut y avoir de murs. Des gros plans, là où il ne peut y avoir de panoramique. Une cérémonie violente, précipitée, là où la procession traînerait. Nous coupons presque un quart de la pièce. Il neige sur le Cachemire et l'Himachal Pradesh. L'après-midi, mise en train des coupes sur l'acte 3, qui surprennent et saisissent. Les contre-jours installés rendent possible une lumière plus dense, cette pénombre étrange et dorée qui n'existe qu'au théâtre ou parfois dans les entrées d'immeubles. Avec quelques tabourets empruntés aux réserves et des seaux d'eau, soudain, quelque chose prend. C'est aussi net que le premier givre indiquant l'hiver, que le premier dos chauffé par le soleil indiquant le printemps. Théramène ouvre les battants d'un guide-chant d'où sort une plainte de presque mauvais goût. Il est assis sous un pilier, à peine éclairé par une ampoule nue qu'on a déplacée pour l'occasion. Ce n'est rien, rien encore, et tout changera. Mais ce rien est l'appui, la prise, ce qui faisait défaut. Accélérée, en ruine, la pièce vient vers nous. Non comme une résistance, mais comme une suite de portes en un long couloir qui résout l'énigme de son devenir jusque-là si incertain et fragile.
यूनानी वीरों की वो फौज अधूरी थी, बेशक अब छोटे थे, चोरी से चले आते उसे जहाज में बैठ, जो उनको ले गया उस क्रेट के साहिल पर, तब आपके ही हाथों से मरता वो राक्षस थी, और आपके ही हाथों से देती अरियाना वो धागा, जो थीसियस को ले गया उस राक्षस के घर तक।
16 décembre. L'intensification du travail nous contraint à vivre en vase clos. Effet inévitable au sein duquel la descente à pied au théâtre, en fin de matinée, devient notre seul contact avec le pays, même si nous habitons tout le jour dans sa langue.
Le 17
décembre, Newmarket. Achat de bananes, d'une guirlande de fleurs, de petites lampes à huile. Dans le contact raréfié avec l'extérieur auquel le travail nous contraint, ces brèves incursions matinales sont plus que des bouffées d'air, des parenthèses magiquement ouvertes sur un là-bas qui serait soudain ici même. Au théâtre, on ne sort guère de son esprit, ou plutôt d'une boîte abstraite, exigeante, dénuée d'ouverture. Un homme vendait à même le sol des lézards à l'allure de dragon, exposés sur du papier journal, à côté de fioles contenant des mixtures. Sans doute une forme de pharmacopée magique. Un enfant vendait de petits canaux de métal, tournant en rond dans une bassine remplie d'eau. Un autre, des flûtes multicolores. Je sais que c'est tout cela aussi que nous voulons retrouver dans la boîte noire de la représentation, et qu'en nous y enfermant, nous sommes fidèles à ce dehors qu'elle semble exclure, mais sans lequel il n'y aurait qu'une butée affreuse. Dehors auquel le langage de Racine lui-même est fidèle dans l'orbe qui est le sien. Le monde que Phèdre entrevoit de l'autre côté de sa folie, le monde dont n'est pas capable Hippolyte. Des petits bateaux dans la bassine du marché à Neptune et des lézards aux monstres de la tragédie, il n'y a que le pas du mythe à franchir. Mais ce pas, c'est le réel lui-même qui l'enclenche. 18 décembre. Lundi, jour de repos et par conséquent celui où nous pouvons arrêter les décisions pour la suite, irréversiblement. Le plateau sera recouvert intégralement par une couche de sable, une seule colonne ajoutée en point d'appui, décentrée, de couleur bronze, venant accomplir le dispositif qui reste par conséquent très discret comme prévu initialement. Tout l'accent porté par contre sur les lumières, les costumes, la géométrie sonore des voix et des figures. 21 décembre. Jour trop agité pour ce carnet que j'aurais voulu quotidien. Tous les aléas et les écarts des répétitions, tout cet écheveau de chemin pris, puis aussitôt abandonné, de sensations éparses, de contrariété, de résistance, d'éclairs de précision, de montée et de chute, ne s'offre pas à être résumé. Comment se fabrique le théâtre ? Ce qu'est la fabrique théâtrale ? Et ici, où pièces et moteurs n'ont pas la même langue ? Ce qu'il faut de patience et aussi d'impatience pour voir venir ce que l'on attendait mais qui demeurait enlisé, les heures et les minutes où l'esprit vacille et s'endort, puis se ressaisit en voyant ce qui était en lui devenir vrai. La matière dont s'est fait le théâtre, justement, un souffle, correction au souffle près, une voix, une lumière et celle-ci, et pas une autre, et cet accent et cette diagonale et la longueur de ce silence. Appel de forme entendu dans la forme engourdie et qui l'éveille. Le spectre de la forme finale est comme endormi dans les couches de feuilles mortes dont les répétitions lentement débarrassent le plateau, tout comme la diction exacte et pure est enfouie sous l'inadvertance, l'éthique et l'expression. Route si encombrée qui va du vague au pur jailli. Hier, le sable a été livré et le plateau en est transfiguré, alarmé. Dehors, devant le lac, Jean-Pierre s'est installé un atelier de moulage où, joyeusement ignorant de toutes les langues étrangères, il rayonne. Un artisan du cuir recruté dans les faubourgs, Anita, Yadoumani et Kriti vont et viennent autour de lui. Le liquide de teinture pour les costumes chauffe dans une bassine sur un feu de bois. Des curieux observent. En bas, sur les rives, des hommes lavent leur linge. Entre deux moments, j'aime venir là en visite, un peu comme on va aux cuisines à la campagne, pour voir ce qui s'y prépare de réconfortant pour le soir. 23 décembre. Nous avons dû arrêter à 5 heures, une soirée de katak se tenant à proximité dans la grande salle. Dans l'intervalle, nous sommes allés, Joe et moi, sur les marches qui surplombent le lac. Celui-ci, couvert de brume, semblait immense, entièrement gris. D'un gris qu'un instant, un passage d'oiseaux blancs est venu rayer, le lac se retrouvait dans cet équilibre étrange entre ici et nulle part, équilibre que l'on ne rencontre que très loin de chez soi, lorsque le paysage, soustrait à toute anecdote et de tout exotisme, prend la couleur de la fatalité. La conformité des choses à leur être, devenant comme une image de rêve, ou comme un présent qui contiendrait déjà la puissance intimante du souvenir. « 25 décembre, jour de repos pour les acteurs. Pluie et brume sur les chantiers et les arbres toujours verts. Promenade au bazar et dans la vieille ville. Bhopal semble entièrement musulmane. Elle est envahie par le flot des pèlerins de l'Ijtema, une sorte d'énorme conférence religieuse qui se tient à Taj ul Masjid, la plus grande des mosquées, et qui réunit des dizaines de milliers de fidèles venus de toute l'Inde et même des pays voisins. Aux abords immédiats de la mosquée, d'immenses tentes ont été montées où les gens passent la nuit et une partie du jour. Des hommes, et rien que des hommes, la plupart portant un calot blanc. Certains prient, d'autres causent ou attendent. Il règne un grand silence. L'atmosphère, plutôt débonnaire, est malgré tout étrange et extrêmement difficile, non seulement à décrire, mais même à percevoir. Être là, c'est marcher dans l'indiscuté. Donc, pour notre pensée, dans l'horreur. Mais cette horreur, est-ce l'étrangeté, l'exotisme, ne prend pas corps. Elle est dispersée par ce qui émane de paysans, de paisibles, de dignes. comme si un filon d'immatérialité tramait l'air même que l'on respire, et qui est moins frénétique que dans les sanctuaires de Delhi. Route du lac au-delà du Bharat Bhavan, petit camp d'oiseaux au bord de l'eau, terre rouge, barque rudimentaire, un arbre avec un fanion. En bas, sous ma fenêtre, un porc a fait partir trois vaches aux cornes peintes en bleu qui rôdaient dans la friche. Le jour se découvre. Les employés de l'hôtel partent à bicyclette. L'odeur des roses qu'on a mises dans la chambre pour Noël est violente. On pourrait aussi passer sa vie à faire des natures mortes. 26 décembre. Répétition laborieuse et décevante, comme toujours après un arrêt même bref. On a l'impression que la matière s'est relâchée, que les progrès que l'on peut objectivement constater demeurent sans lien entre eux. Il faut dire aussi qu'il y a quelque chose d'un travail de Sisyphe dans notre projet. Plus nous devenons familiers avec la matière sonore de l'hindi, et plus nous sommes à même de déceler des défauts qui, au début, passaient inaperçus. De surcroît, la coupe des vers ou des phrases de la version hindi ne correspond pas exactement, comme c'était d'ailleurs prévisible, à celle de la version originale, ce qui fait que certaines de nos indications de jeu demeurent incompréhensibles ou tombent à côté. Le drame devient par ailleurs pour nous une pure affaire de technique et de minutie. Le temps de sa redécouverte enthousiaste est clos. Il faut désormais attendre les filages pour retrouver tout l'allant qui nous portera jusqu'à la première.
C'était Phèdre en Inde, de et avec Jean-Christophe Bailly, avec des extraits du documentaire de Jean-Paul Sivérac, Phèdre à Bhopal, une production de la FEMIS. Équipe de réalisation, Anil Bosselet, Éric Boisset, Benjamin Hu et François Christophe. Phèdre en Inde a été publié en 1990 aux éditions Plomb dans la collection Carnet, dirigée par Alain Weinstein. Une seconde édition de ce journal a paru en 2002 chez André Dimanche éditeur.